Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grand Amour, en direct et en public du Salon Livre Paris. Ce soir, avec le porno, le sexe est-il à bonne école ? Ce qui est rassurant avec la publicité, c'est son obstination à prendre les consommateurs pour des imbéciles. Ainsi, la marque Carambar, qui, pour faire parler d'elle, vient de lancer sa gamme pour adultes. Dans les paquets de la célèbre marque de caramel, vous pourrez trouver désormais des blagues coquines interdites aux moins de 18 ans, à ne pas mettre donc entre toutes les dents. Cette opération marketing ne s'adresse évidemment pas aux adultes, mais bien aux enfants, d'autant plus tentés d'acheter les nouveaux paquets qu'ils sont frappés d'un interdit. C'est tout le sel de la transgression. Encore que, dans ce domaine, quelle place reste-t-il à la transgression quand Internet permet, dès le plus jeune âge, d'être confronté à des images et des vidéos pour adultes ? La pornographie règne en maître sur le web, elle précède le passage à l'acte, sans pour autant d'ailleurs accélérer ce dernier, puisque depuis 30 ans, l'âge du premier rapport sexuel reste le même, 17 ans et 6 mois. Alors cette exposition précoce à la pornographie inquiète les adultes, quelles conséquences sur la future sexualité des adolescents ? Mais peut-on aussi lui trouver des vertus éducatives ? Avec le porno, le sexe est-il à bonne école ? C'est notre sujet du jour. Et pour discuter de cette question, trois invités. Thérèse Argaud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe et sexologue. Vous intervenez en cabinet et en milieu scolaire, oui. À partir du primaire jusqu'en classe prépa. Et vous venez de publier aux éditions Albin Michel une jeunesse sexuellement libérée ou presque. Pour discuter avec vous, Ovidie, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivaine, réalisatrice et productrice de films. Vous avez fait une brève carrière d'actrice dans le porno. Et vous avez signé un documentaire. Vous êtes en train d'en finaliser un actuellement. Mais le dernier documentaire de vous qu'on a pu voir, c'était sur France 2 en juin dernier. Ça s'intitulait « À quoi rêvent les jeunes filles ?». Et puis notre troisième invité, Mathieu Trachman, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue chargé de recherche à l'INED. Vous travaillez sur les questions de genre et de sexualité. Et vous aussi, vous venez de publier un ouvrage. En tout cas, c'est une bande dessinée qui a été publiée à partir d'une de vos enquêtes qui s'intitule « La fabrique pornographique ». Les dessins sont de Lisa Mandel. C'est publié aux éditions Casterman dans la collection Sociorama. Alors avec vous trois, j'aimerais d'abord qu'on démarre sur une actualité qui pour l'instant n'est pas encore définitive, mais qui est le rapport qui a été remis il y a quelques jours à la nouvelle ministre de la Culture, Audrey Azoulay, sur la question de l'interdiction des films de cinéma aux mineurs et notamment la classification X. Ce rapport suggère que la restriction d'accès à ces films soit désormais décidée dès lors qu'un film comporte sans justification de caractère esthétique des scènes de sexe qui sont de nature à troubler gravement la sensibilité des mineurs. Ce qui veut dire par défaut que si le caractère esthétique est justifié, il n'y aurait peut-être pas d'interdiction au moins de 18 ans. Est-ce que vous considérez les uns et les autres que des scènes de sexe non simulées, si elles ont un caractère esthétique, elles peuvent être montrées à des mineurs ? Thérèse Argaud.
Tout dépend de, effectivement, du sens que ça prend. Effectivement, si ça rentre dans une histoire, il y a des personnages, l'acte sexuel prend du sens. Si effectivement c'est déconnecté, c'est là qu'on est plus dans du porno. C'est moi la différence que je ferais entre la pornographie et l'érotisme. Et je pense que c'est important de refaire cette différence là où la pornographie aujourd'hui a phagocyté l'érotisme, l'art de mettre en scène l'amour et la sexualité.
Ovidie.
Non, moi je vais être plus radical que les plus radicaux, c'est-à-dire non, moi je considère qu'il faut respecter la loi et qu'à partir du moment où il y a des scènes explicites, on interdit aux mineurs. En revanche, ce qui est problématique en général avec la classification CNC et la classification aussi CSA, c'est que le CNC et le CSA pénalisent les films qui contiennent des scènes explicites, même si artistiquement c'est justifié. Moi, je considère que les films qui sont interdits moins de 18 ans, comme ça a été le cas de Love, doivent rester interdits moins de 18 ans, mais ne doivent pas être pénalisés parce que ce sont des films qui méritent d'être vus. Voilà.
Mathieu Trachman, à partir du moment où il y a une scène de sexe non simulée qui est explicite, est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de pornographie ?
Alors, une des questions, c'est qui définit la pornographie et pourquoi la pornographie est avant tout une catégorie d'État, avant d'être un genre filmique, même si on peut le considérer aussi comme tel, et que donc c'est l'État qui définit ce qui est pornographique et ce qui l'est pas. Et les enjeux de cette définition, en fait, concernent évidemment la sexualité, mais aussi des publics supposés fragiles, que ce soit par exemple les enfants, mais aussi, historiquement, les classes populaires. On a toutes les raisons de se méfier, pas seulement de la pornographie, mais de la manière dont elle est définie par les institutions.
Alors moi je suis allé regarder dans le dictionnaire Petit Robert pour voir comment était définie la pornographie. C'est la représentation de choses obscènes destinées à être communiquées au public, Et alors, quelle est la définition de obscène, toujours dans le dictionnaire Petit Robert? C'est ce qui blesse délibérément la pudeur en suscitant des représentations d'ordre sexuel. C'est vrai que ça a une forte dimension subjective, Thérèse Argaud.
Oui, moi, ce qui m'intéresse aussi avec la pornographie, enfin, ou comment est-ce qu'on peut la caractériser, c'est que, comme me disait Grégory Dorcel, avec qui j'ai pu parler récemment, il me disait, mais la pornographie, c'est un objet masturbatoire. L'objectif du porno, c'est de provoquer l'excitation sexuelle en vue de la masturbation.
Alors, si Grégory on est... Grégory Dorcel, ça a un rapport avec Marc
oui,
Dorcel?
Oui, exactement. C'est le fils qui a repris la maison Marc Dorcel. Pardon. Et il me disait, bah, c'est un objet masturbatoire, voilà, l'objectif c'est d'exciter sexuellement. Alors du coup, voilà, si l'objectif c'est de montrer une scène qui provoque le désir, certes, mais pas l'excitation sexuelle en tant que telle, peut-être qu'il y a une petite différence, je sais pas, ça peut être un élément.
Ovidie.
Enfin, encore une fois, c'est très subjectif ce qui suscite le désir et ce qui peut amener jusqu'à l'acte masturbatoire. Le problème, c'est que la définition de la pornographie et même la définition de ce qui doit être interdit aux mineurs par le CNC, c'est extrêmement subjectif. Oui. Dire, voilà, ce qui peut... On n'avance pas, en fait.
Il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être qui écrit beaucoup sur le sexe, qui est une blogueuse qui s'appelle Maya Mazorette, alors qui a son propre blog, et puis qui écrit notamment sur le site internet du Monde, et qui a fait un article il n'y a pas très longtemps, dans lequel, alors elle racontait un petit peu, elle, comment elle a été éveillée à la sexualité, notamment par la pornographie, mais elle dit ceci, le problème n'est pas l'exposition à la pornographie, mais à un seul type de pornographie. La pornographie est riche et on n'en diffuse que le parent pauvre, Mathieu Trachman.
Oui, la pornographie, en fait, fonctionne comme une industrie culturelle depuis les années 70 en France, ce qui veut dire qu'en fait, il y a des processus hégémoniques et puis il y a des productions qui sont plus minoritaires. C'est le cas aussi pour la musique ou pour le cinéma. Donc après, la question, en effet, c'est qu'il y a par ailleurs une grande diversité de pornographie et que c'est toujours une certaine pornographie qui est problématisée. C'est la même chose pour le rap en France, par exemple. C'est toujours un certain rap, alors qu'il y a une diversité de la scène rap. Peut-être que on revient au problème initial, c'est-à-dire que l'État en même temps réglemente ou régule la production pornographique et de ce point de vue-là en fait donne peu de moyens pour diversifier cette production. Et peut-être à ce moment-là que si on repensait les conditions politiques de production de la pornographie, la diversité serait peut-être valorisée et valorisable.
Mais est-ce qu'on pourrait considérer par exemple que dans cette diversité de la pornographie, il y a certaines formes qui, sans être montrées forcément à des mineurs, sont peut-être moins dangereuses s'ils y accèdent, Mathieu Trachman?
Il n'y a pas une dangerosité et un public. Il y a des représentations qui peuvent être plus ou moins positives ou négatives selon les publics et selon les contextes. D'autre part, en fait, il n'y a pas une dangerosité de la pornographie, notamment du point de vue des rapports de genre. Et puisque c'est quand même ça un des problèmes qui est posé, c'est la question du sexisme de la pornographie. En fait, il y a notre société est sexiste, tous les études le montrent, c'est-à-dire qu'il y a des formes de différenciation et de hiérarchisation des hommes et des femmes. La pornographie participe de ce processus comme beaucoup d'autres industries culturelles, mais elle peut aussi le remettre en cause.
Et par ailleurs, il existe de la pornographie. Il existe de la pornographie éducative. Par ailleurs, il n'existe pas une seule forme de pornographie. Il y a tout un ensemble de genres pornographiques.
Qu'est-ce que vous appelez la pornographie éducative?
Depuis les années 80, il existe de la pornographie éducative qui, par exemple, on va y avoir une pornographie qui va expliquer comment faire. Enfin, je dis des choses complètement au pif, mais qui existent. Hein, comment faire un massage génital? Comment utiliser la digue dentaire? Comment utiliser le préservatif féminin? Comment trouver le point G? Comment provoquer l'éjaculation féminine? Enfin, il existe de la pornographie éducative qui représente, je dirais, qui appelle un chat un chat et surtout qui montre à l'image, qui joint le geste, je dirais, qui joint la pratique à la théorie.
Thérèse Argaud, oui. La notion de pornographie éducative, est-ce que c'est quelque chose qui vous pose problème ou
non,
vous acceptez?
Ce qui me pose problème, c'est que nous, on aime bien discuter sur quel type de pornographie est intéressante ou pas. Moi, ce que je vois sur le terrain, ce que j'observe dans les collèges, ce que j'observe même dans les écoles, c'est que la pornographie que regarde massivement les collégiens et parfois aussi même les écoliers, c'est pas cette pornographie dont on parle là, c'est du McDo comme on dit, c'est-à-dire une pornographie comme on trouve sur ces plateformes, je sais pas si on peut les citer là, mais donc des grosses plateformes gratuites évidemment. Moi je l'appelle la génération YouPorn, avec qui est biberonnée à cette pornographie là. Aujourd'hui, moi ce qui m'interpelle, c'est que le gouvernement s'inquiète sur ces sites là, sur ces films comme il y a eu La Vie d'Adèle et compagnie. Je pense qu'il y a une urgence de légiférer sur ces plateformes sur Internet, ultra accessible à n'importe qui ne sont pas du tout réglementés, là où la loi imposerait qu'il y ait une réglementation. Que fait le gouvernement? Pourquoi ils ne font rien? Elle ne respecte pas la loi, elle ne fait pas appliquer la loi, alors que c'est leur job. Et donc là aussi, il y a une revendication des citoyens.
Mais pardonnez-moi cette question un peu naïve, mais pour quelle raison est-ce qu'il faudrait absolument légiférer sur ces questions et empêcher le plus possible les mineurs Alors parce que c'est illégal,
déjà,
parce que voilà.
Première raison, parce qu'elles sont illégales, parce qu'elles ne respectent pas déjà la loi, bon, sur le copyright, sur le droit d'auteur, sur le droit à l'oubli des actrices, mmh. mais surtout parce qu'elles sont illégales, parce qu'en France, il y a quand même une loi qui dit que montrer de la pornographie à des mineurs, c'est passible d'une peine d'emprisonnement et de, je crois, 320 000 euros d'amende, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que si un producteur de films porno comme Grégory Dorsen, comme vous le citiez, montrait des films pornographiques à des mineurs, il encourrait une peine de prison. Ces sites-là qui sont disponibles en France, qui émettent en France, ne respectent pas cette loi-là. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de disclaimer. C'est-à-dire qu'on leur demande même pas leur âge en arrivant. Ils ont, en arrivant sur le site, ils ont un accès frontal à la pornographie. On ne leur demande rien. Donc, il est absolument anormal que ces sites-là qui sont illégaux émettent encore en France. Les Chinois arrivent à fermer Google en un claquement de doigts. Je vois pas pourquoi en France, on n'arriverait pas à faire fermer ces trois sites-là.
Alors, je vais poser ma question de manière un petit peu différente. Pour quelles raisons est-ce que cette loi existe? C'est-à-dire, pour quelles raisons y a-t-il une loi, Thérèse Argaud, qui interdit aux mineurs d'avoir accès à la pornographie? Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il y a, par exemple, des études qui prouvent de manière totalement irréfutable que un mineur qui va avoir accès à la pornographie va être profondément et longuement traumatisé?
Il y a déjà une chose qui est importante. Vu cette industrie qui a explosé avec Internet, aujourd'hui, il faut arrêter de croire que c'était comme à l'époque où il fallait trouver la cassette vidéo du père, d'un copain, de je sais pas quoi. Vous savez, il fallait élaborer un plan pour pouvoir voir ces images. Aujourd'hui, des enfants, des adolescents n'ont même pas le temps de vouloir regarder par le trou de la serrure que déjà, ils ont accès à ces images. Autrement dit, la pornographie vient court-circuiter la curiosité. La curiosité sexuelle va court-circuiter l'élaboration de l'imaginaire sexuel. Et donc, souvent,
oui, à la pornographie, mais il ne faut pas que ça soit trop facilement accessible, c'est ça.
C'est que souvent, là, en ce moment, on a une vraie problématique, une urgence dans notre société, c'est que ces images-là sont imposées à des enfants qui ne sont pas toujours consentants, qui n'ont pas voulu regarder. Ça, c'est une première problématique. Oui.
Le fait que ça soit imposé, que ça soit pas une démarche volontaire, ça peut être un argument, Mathieu Trachman. Mathieu Trachman.
Non. Pour reprendre votre question sur les études sur la supposée influence de la pornographie sur les enfants, qui sont menées depuis une quarantaine d'années. Donc, d'une part, en fait, ce qu'elle montre en premier lieu, c'est que la question est probablement mal posée. Il n'y a pas une influence d'une image ou d'un ensemble d'images sur un public homogène. Il y a des usages, comme le montre Florian Voroz dans son travail, des usages sociaux de la pornographie. Et en effet, cette histoire de diversité des productions, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que il y a des productions qui sont hégémoniques et c'est celle-là dont on peut parler et pas simplement des productions qui sont politisées, féminisées, etc. Donc ça, je suis assez d'accord. Mais par contre, le fait de considérer qu'il y aurait des petits enfants qui seraient soumis à un afflux d'images pornographiques et que ça influencerait de manière déterminante leur sexualité, c'est faux. Aucune étude n'a jamais montré ça, parce que ça
aussi.
Parce que ça repose sur des conceptions en fait de l'appropriation culturelle qui sont naïves, c'est-à-dire qu'en fait on ne lit pas une image culturelle ou un objet culturel comme si on était une page blanche et que ça s'imprimait sur vous. C'est pas juste comme ça que ça fonctionne. C'est des usages sociaux.
Oui, mais par contre, ce qui est important, c'est de voir que ça vient de plus en plus jeune d'un esprit immature. C'est pour ça qu'il y a la loi aussi. C'est qu'à un moment, on a la maturité pour faire la part des choses, et à un moment, on l'a pas. Il y a une différence entre l'enfance et l'âge adulte.
Ovidie, est-ce qu'on peut pas aussi imaginer que dans tous ces jeunes qui disent peut-être avoir accès à des images ou à des vidéos pornographiques, il n'y en a pas un certain nombre qui exagèrent peut-être cette exposition parce que ça leur permet aussi d'exister socialement? Parce que si, je sais pas moi, à partir de quel âge on commence à voir des films porno, mais si à partir de, mettons, de 12-13 ans, on n'a pas déjà vu un film pornographique, on est un petit peu un ringard. Donc est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ces données statistiques qui nous disent que voilà, il y a une majorité de jeunes aujourd'hui qui sont exposés à la pornographie?
Je me méfie, moi, justement, des données statistiques. Moi, ce qui me pose problème, c'est que la pornographie peut pas être envisagée comme un seul et unique élément de notre environnement culturel. C'est-à-dire, tous ces codes sexistes existent également dans la publicité, c'est repris dans les magazines, y compris les magazines féminins, ça existe dans le jeu vidéo, ça existe dans les clips, ça existe dans tous les éléments culturels qui nous entourent. Et on peut pas juste isoler la pornographie. On va dire qu'il y a des codes d'une certaine esthétique pornographique qui se retrouve absolument partout dans tous les médias. Et je trouve assez hypocrite de vouloir interdire la pornographie finalement purement, même si moi je suis pour interdire aux mineurs, hein, je suis pour là-dessus. Mais je trouve ça un peu hypocrite d'attaquer en général uniquement la pornographie, alors que la pornographie c'est juste la partie exacerbée finalement d'une culture sexiste qui existe dans l'ensemble de notre société.
Mais est-ce qu'on peut dire que la pornographie amplifie ces codes?
elle est exacerbée. Je dirais la pornographie, ce sont les rapports hommes-femmes d'une société donnée. C'est-à-dire la pornographie en France n'est pas la même que la pornographie aux États-Unis, elle n'est pas la même au Japon, elle n'est pas la même au Danemark, et elle n'est pas non plus la même en fonction des époques. La pornographie, c'est juste la représentation exacerbée des rapports hommes-femmes à un moment donné.
Mathieu Strachmann, vous qui avez enquêté justement dans le milieu du cinéma pornographique, notamment, enfin cinéma amateur et puis cinéma plus professionnel, est-ce que c'est une amplification qui est assumée par ce milieu? C'est-à-dire où on sait très bien que ce que l'on montre, ça n'est pas la réalité. Est-ce qu'il y a une, comment dire, presque une réflexion sur cette dimension-là?
Oui, au sens où la pornographie en France s'organise comme un groupe professionnel, si on veut, ou un ensemble d'entrepreneurs. Et ce que j'essaie de décrire, c'est qu'on pouvait les comprendre comme des entrepreneurs des fantasmes, c'est-à-dire qu'ils se donnaient pour objectif de mettre en scène les fantasmes du public, d'un public assez large, y compris assez spécialisé. Alors après, ça pose pas mal de questions. Ça veut dire que qu'est-ce qu'ils entendent par fantasme? Et ils entendent par fantasme quelque chose qui est tout simplement indépendant du répertoire sexuel. Ça veut dire qu'en fait, le viol peut être un fantasme. Ça veut pas dire pour autant, en fait, qu'il faut pénaliser ou interdire les films pornographiques de viol. C'est-à-dire que là, on voit qu'ils font partie, là encore, je suis tout à fait d'accord, d'un mouvement plus général au cours du XXe siècle, en l'occurrence, d'une dissociation entre une sphère des fantasmes et une sphère des pratiques. Et on considère qu'en fait, la sphère des fantasmes est relativement autonome par rapport à nos pratiques sexuelle, c'est à la fois vrai et faux, comme on peut tous en faire l'expérience. On a des fantasmes qui renvoient à ce qu'on fait pas, mais on a aussi des fantasmes qui renvoient à ce qu'on fait. Mais ça, c'est bien évidemment une rhétorique professionnelle qui vise à légitimer leur activité.
Vous, ce que vous dites, Thérèse Argot, dans votre livre, c'est que la pornographie, elle empêche l'enfant de développer ses propres fantasmes et que ça finit aussi par le fixer par la suite, même devenu adulte, dans une forme d'immaturité.
Moi, ce qui me gêne, c'est que ça formate l'imaginaire et que très tôt, en fait, ce formatage a lieu. Et donc, il y a un conditionnement à penser. On a parlé, moi, je rejoins aussi tout à fait dans l'histoire de culture pornographique. Je pense que c'est plus intéressant de parler de culture parce que quand on voit, c'est pas juste le site internet, c'est effectivement les émissions, télé, radio, les pubs. Donc, je rejoins tout à fait. Mais l'idée, en tout cas, c'est ce formatage-là et de voir qu'il y a des nouvelles normes. Et ça, moi, ça m'intéresse parce que dans une société qui s'autoproclame très libérée sexuellement, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est une société qui est aussi très normative au niveau de la sexualité avec des normes, les normes qui sont imposées non plus par l'Église catholique, comme ça a été à une certaine époque, mais aujourd'hui, l'industrie pornographique impose aussi certaines normes et très jeunes.
Alors ça, c'est justement ce que on peut voir et entendre dans le documentaire que j'évoquais en début d'émission, Ovidie, À quoi rêvent les jeunes filles, donc qui avait été diffusé l'an dernier sur France 2. Cette façon dont le porno peut être soit reflète des normes sexuelles, soit en tout cas les impose. Et vous avez notamment posé la question de voir en quoi la pornographie influençait la sexualité à deux jeunes femmes qui s'appellent Clarence et Horty.
Est-ce qu'il y a une influence de la pornographie sur les pratiques?
Là, oui, clairement. Les jeunes filles, aujourd'hui, elles, en moyenne, elles font toujours l'amour pour la première fois à 17 ans, mais avant ça, elles font plein de choses. Et la première fois, y en a plein qui se font la totale, ce que je trouve assez intéressant. Parce que ça, là, pour le coup, ça provient vraiment d'une imagerie porno, ouais. Quand tu vois la génération de mes parents, Enfin voilà, il y a des pratiques sexuelles que tu pratiquais au bout d'un certain temps et quand tu étais dans une relation de couple, et qui sont aujourd'hui des choses que tu fais entre le cours de maths et le cours de français à 14 ans pour essayer, quoi. Enfin, c'est... Voilà, les pratiques ont changé, ouais.
Des choses comme la fellation, ça a été très mal vu pendant longtemps. Maintenant, c'est obligatoire. Je pense qu'une fille qui dit « non, moi, je suce pas », elle passe pour une prude ou je sais pas quoi. Ça, c'est des choses qui, pour moi, qu'on n'avait pas le droit de faire avant et qu'on est obligé de faire maintenant. Donc, c'est un déplacement de la norme, en fait. Mais par contre, ne pas le faire, là, ça devient problématique aussi.
Voilà, extrait de votre documentaire Ovidie. Est-ce qu'on peut dire, d'après vous, que c'est le porno qui impose ces nouvelles normes, ou bien est-ce que le porno ne fait pas aussi que refléter ces normes sexuelles, mais qui pourraient exister sans lui?
Les deux, c'est la poule et l'œuf. Les deux. Et c'est vrai qu'il y a... comme on le disait tout à l'heure, la pornographie, c'est le reflet d'une société. Et donc, la pornographie reflète aussi ce qui est toléré dans une société. Par exemple, Horty disait, la fellation, c'est devenu la norme, c'est devenu obligatoire. Mais c'est devenu obligatoire dans un sens. C'est-à-dire, effectivement, une jeune fille aujourd'hui qui va dire, je ne suce pas, va passer pour une prude. En revanche, un garçon qui dit, je suce, alors là, tout de suite, il va être taxé de PD, etc., etc., etc. Donc, il va subir, lui aussi, une forme de discrimination. Donc, il y a quand même, il y a un certain nombre de pratiques qui sont devenues obligatoires, mais il y en a tout un tas d'autres, tout un panel de la sexualité qui reste quand même fortement condamné.
Mathieu Trachman.
Par rapport à cette question de reflet ou d'amplification de la fonction finalement de la pornographie, il me semble qu'un des éléments importants, c'est que le porno fonctionne souvent comme une érotisation des rapports sociaux, y compris des choses non sexuelles. C'est-à-dire que dans une situation quotidienne de la vie de tous les jours, on va essayer de le transformer en scénario érotique finalement, et c'est ça un des savoirs et des savoir-faire des gens qui font de la pornographie, c'est d'essayer de trouver des nouvelles situations excitantes. Il y en a des très classiques, c'est l'hôtesse de l'air, c'est le médecin, etc., etc. Il y en a qui le sont moins, c'est les rapports de classe. Si on pense à Brigitte Lahaye, qui a fonctionné comme une érotisation finalement d'une certaine bourgeoisie française des années 70 et qui répondait à des fantasmes et qui par là même en fait les alimentait.
Finalement, ce sont des nouvelles normes qui en remplacent de plus anciennes. En quoi ces nouvelles normes seraient peut-être plus dangereuses pour, alors je reste sur les mineurs ou en tout cas sur les jeunes gens, que les précédentes, Mathieu Trachman?
On se le demande, oui. En fait, je pense qu'il y a surtout, il faut distinguer deux questions. Il y a un point de vue du genre et du point de vue de la sexualité. Il y a l'accès à la diversité sexuelle que ça implique, fellation, sodomie, etc. n'est pas me semble pas problématique en soi. Et d'ailleurs, en fait, il est assez limité. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de sodomie dans les pornos qu'il y a une explosion de la sodomie dans les pratiques sexuelles des Français. Ça n'est absolument pas le cas. Par contre, que telle ou telle pratique, soit la sodomie, la fellation, puisse être des pratiques sexistes, et d'ailleurs dans le documentaire de Vidi, il s'agit bien de femmes, et je pense que c'est bien de questions de genre autant que de questions de sexualité, c'est quelque chose qui me semble important.
Thérèse Argot.
Moi, ce qui me semble aussi important, c'est comment l'activité sexuelle est aussi devenue un lieu pour les jeunes pour se rassurer dans leur virilité ou leur féminité. En gros, à quoi rêvent les jeunes filles? On voit qu'il y a beaucoup de, par exemple, de pratiques de fellation très tôt, mais ce qu'elle veut, c'est pas la fellation. Ce qu'elle veut, c'est plaire à celui à qui elle cherche une confirmation de sa valeur, en fait. En gros, elle se pose la question, est-ce que je suis quelqu'un de bien? Est-ce que je suis quelqu'un d'aimable? Elle pose la question de l'estime de soi qui se construit à ce moment-là. Et ce qu'elle va espérer, c'est qu'au travers de la conformité à justement le fait de pratiquer telle ou telle chose, elle est sa réponse. C'est pour ça qu'elle n'est pas capable encore d'exercer sa liberté, parce qu'elle est empêtrée dans un questionnement affectif de savoir sa valeur. Pareil pour le garçon. Donc ce que nous voyons adultes comme l'expression d'une liberté sexuelle, en fait souvent c'est quelque chose d'imposé, et il n'y a pas beaucoup de liberté là-dedans.
Oui, parce que vous dites c'est peut-être une façon de se rassurer, sauf qu'on voit bien dans les questions par exemple qui vous sont opposées, oui, hein, par les élèves que vous côtoyez, qu'il y a énormément d'inquiétudes, et notamment sur des questions de performance.
Ah mais énormément, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on intervient en milieu scolaire, quand on pose aussi des questions, quand on leur permet de poser des questions et qu'on réfléchit là-dessus, c'est qu'il y a une grande angoisse de performance qui est très connue des sexologues. Moi, qui fais aussi, je fais aussi mon business là-dessus. Je dis ça de manière ironique, c'est-à-dire que les gens ont des dysfonctions sexuelles parce qu'ils angoissent de ne pas être assez performants. Et tout ça aussi est influencé d'une certaine manière par cette culture pornographique dont on parle.
Mathieu Trachman.
Oui, juste à propos de la sexualité est liée à la valeur ou à la manière dont on se perçoit soi-même, mais c'est structurel. C'est-à-dire que c'est absolument pas une nouveauté. Je pense que socialement, il y a des significations sociales de la sexualité, et que la sexualité sert souvent à tout autre chose que le plaisir sexuel. Dans la conjugalité, par exemple, il est bien évident que la sexualité conjugale ne sert pas nécessairement, et notamment pour les femmes, à accéder au plaisir ou à satisfaire ses désirs, mais à entretenir le couple, à réaffirmer des liens conjugaux, à penser à autre chose, etc., etc. Donc un ensemble d'usages sociaux ou de fonctions sociales de la sexualité conjugale, mais qui est évidemment lié à des rapports à soi, à des questions de performance, etc., etc.
C'est pour ça que moi, ce que je dis, pourquoi est-ce que j'ai écrit mon livre une jeunesse sexuellement libérée ou presque, c'est que aujourd'hui on parle de libération sexuelle, mais finalement notre rapport à la norme n'a pas vraiment changé. Moi je dis, qu'est-ce qui a changé depuis mai 68? Fondamentalement rien, sauf que la norme a changé, mais notre rapport à la norme reste le même.
Ovidie.
Moi, j'étais en train de réfléchir aussi par rapport au fait que le consensus pornographique, donc ton livre, ton enquête, tu l'avais faite en quelle année? 2007?
Entre 2005 et 2010.
Entre 2005 et 2010. J'étais en train de réfléchir à quelque chose, c'est que depuis, il y a quand même des choses qui ont changé au niveau de la consommation pornographique. C'est l'explosion des tubes et des sites de streaming dont on parlait tout à l'heure, et des plateformes gratuites. Et que l'industrie pornographique a complètement chuté économiquement depuis cette date. Aujourd'hui, on n'a jamais regardé autant de porno dans le monde, et pourtant l'industrie du porno n'a jamais été aussi moribonde. On assiste à une situation qui est particulièrement paradoxale. Donc la plupart des maisons de prod ont fermé les unes après les autres, et les seules qui sont restées, finalement, ont décidé de produire des choses qui n'existaient pas sur les plateformes gratuites. J'entends par là une escalade dans les pratiques. C'est-à-dire que, par exemple, si sur une plateforme on trouve un rapport pornographique, on va dire absolument lambda, eh bien, les producteurs vont se mettre à produire quelque chose de plus fort en se disant, bah tiens, au moins ce contenu-là n'est pas encore piraté. Le problème, c'est qu'un mois plus tard, ce contenu sera piraté. Donc on va passer de, je ne sais pas si je peux rentrer vraiment dans les détails à ce heure-ci, mais concrètement, c'est ça ce que j'ai vu sur le terrain, c'est-à-dire, au début, on va mettre une double pénétration sur une plateforme, et puis ce sera pas assez, donc après on va faire une double pénétration anale, et puis ce sera pas assez, donc on va faire une triple pénétration anale, et on en est à un stade aujourd'hui où j'ai vu ça à Budapest, des filles qui m'ont dit, bah oui, j'ai déjà fait une quadruple pénétration anale. Et là, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, mais comment ils se mettent, et comment ils font, et qu'est-ce qui se passe en fait, et quels produits ils prennent surtout pour que ça passe? Et aujourd'hui, on assiste quand même à ce problème-là, je dirais, qui n'existait pas il y a encore 5 ans, c'est qu'on assiste à des pratiques, à une banalisation d'une certaine forme de violence, qui est vraiment problématique.
Alors justement, Thérèse Argaud, je crois que ça fait une dizaine d'années à peu près, hein, que vous faites des interventions auprès d'un jeune public. Est-ce que vous la sentez aussi, cette évolution, dans les questions qu'on vous pose?
Et oui, et ce qui a aussi changé en quelques années, hein, c'est par exemple aussi les smartphones qui ont complètement révolutionné aussi l'accès à la pornographie, qui sont disponibles aussi pour des enfants, des collégiens. Et ça aussi, ça a changé notre rapport au porno. C'est pour ça que, en ce moment, moi, je passe beaucoup de temps aussi à alerter les parents qui pensent toujours à la pornographie selon leur propre modèle de, à l'époque, comment ça se passait, et qui n'ont pas conscience que les choses ont énormément évolué dans ce domaine, dans l'accessibilité.
Mathieu Trachman.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Ovidie. Donc, c'est mon enquête, qui est une enquête pas sur la consommation, mais sur la production, elle est située. Et j'avais pas conscience, en fait, à l'époque, que je faisais une enquête sur un monde qui était finalement en train de mourir.
C'était moribond, ouais. Genre, et on le savait pas, nous non plus. Hein.
Voilà. Mais quelques années après, j'en discutais avec Henri Gigou, qui s'occupe donc de l'achat de droits de films pour le groupe Canal+. Et on faisait la liste des gens que j'avais rencontrés. Et finalement, il y en avait plus quasiment aucun qui était en activité. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'il y a une évolution ou des révolutions? Je pense que, si vous voulez, c'est un peu comme s'il y avait plusieurs couches ou plusieurs strates. Ce que j'ai essayé de saisir, en fait, dans l'organisation du travail pornographique, c'est qu'il y avait un ordre du genre. Et une des questions, c'est: est-ce que les avancées techniques, telles que permettent les tubes, etc., font bouger pour autant cet ordre du genre, ou bien la représentation de la diversité sexuelle qu'on peut avoir dans le porno? Je pense que c'est une question ouverte. Je ferais plutôt l'hypothèse que l'ordre du genre ne bouge pas aussi rapidement que les évolutions technique. Et cet ordre du genre, en fait, était déjà inégalitaire, sexiste dans les 70, et que c'est pas parce qu'on rajoute des bites dans des anus qu'en fait que l'ordre du genre est complètement
changé. Non, mais pardon, il y a quelque chose qui change. C'est que par exemple, le rapport au smartphone, et moi je le vois chez les adolescents, c'est qu'aujourd'hui on peut se filmer soi-même, et que ce qui va aussi se passer, c'est que on parle beaucoup de porno amateur qui existe beaucoup et qui est facile pour monsieur, madame, tout le monde. Et donc, je veux dire, n'importe qui a un smartphone, qui a un truc, peut se filmer. Et ça va quand même changer aussi le nouveau mode. Et on a des adolescents aussi beaucoup qui se filment, qui mettent après les films sur internet. On a parlé aussi du revenge porn, qui est une vraie problématique aujourd'hui en milieu pour les jeunes. Et ça a quand même changé en quelques années.
Voilà, donc, revenge porn, ce sont des vengeances,
pardon, des films ou des photos qu'on a prises.
Ovidie.
Après, ce que je constate aussi sur le terrain, ce qui est assez intéressant, c'est que si on interroge la plupart des producteurs de films pornographiques, ils sont tous OK pour fermer les tubes,
oui,
et ils sont tous OK pour interdire le porno mineur. Oui. Hein, c'est-à-dire, il y en a plein là-dedans qui ont des familles eux-mêmes, qui sont pères, mères aussi, et qui n'ont absolument pas envie que leur gamin tombe dessus. Après, c'est vrai que la question du revenge porn, c'est encore autre chose, puisque là, c'est encore quelque chose qui n'a rien à voir avec l'industrie pornographique.
Non, mais les conséquences derrière, on parle quand même encore de pornographie.
Mathieu Trachman, votre enquête dans le milieu du cinéma porno, donc elle se traduit aujourd'hui par une bande dessinée avec des images qui sont très explicites. Est-ce que c'est une bande dessinée? Par exemple, moi, je suis père de deux adolescents que je peux laisser de manière, enfin, négligemment sur la table basse du salon, ou que j'ai plutôt intérêt à cacher?
Alors, c'est un choix qu'on a fait avec Lisa Mandel, hein, cette BD, avant tout le travail de Lisa Mandel, qui a mis en récit finalement une enquête de sociologie qui avait des aspects un peu rébarbatifs, comme cette enquête de sociologie. Et on a fait le choix d'avoir non seulement des images explicites, mais aussi d'avoir deux registres esthétiques. Un registre ordinaire où Lisa a utilisé son style habituel avec des personnages un peu sympa, etc. Et puis un style beaucoup plus stylisé, finalement, qui avait, ou comme disait une des lectrices cette semaine, qui pouvait être un peu excitant, ou en tout cas plus ou moins gênant. Est-ce que je pense que vous pouvez le laisser à des adolescents, au sens où je pense que justement l'idée de cette BD, c'est de montrer que d'une part, en fait, il y a des conditions de production du porno, ce qu'on oublie souvent, ce qu'Ovidie rappelait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas simplement la question de la dangerosité sur le public, il y a aussi des conditions de production différentes et une organisation du travail qui est très peu réglementé en France, et on pourrait faire un effort vis-à-vis de ce côté-là. Et puis il y a cette distinction entre réalité et fantasme, et on essaie de questionner les liens qu'on peut faire entre réalité et fantasme.
Est-ce que ça, c'est des choses qui sont intéressantes et importantes à expliquer aux jeunes que vous rencontrez, Thérèse Argaud? Est-ce que, par exemple, une bande dessinée, alors vous avez juste eu le temps d'y jeter un rapide coup d'œil,
mais peut... Non, moi, je ne passe à mes enfants, je peux le dire.
Est-ce que ça peut, en tout cas, servir de support, si ce n'est toute la BD, mais en tout cas certaines images, pour déconstruire aussi peut-être ce qu'est la pornographie, pour expliquer à ces jeunes que ce qu'ils peuvent voir sur Internet, ça n'est pas la réalité de la sexualité.
Donc on remontre des dessins explicites pour déconstruire les films explicites.
C'est ma question.
Expliquez-moi du coup le concept derrière.
C'est ce que suggèrent certains. Alors j'ai vu notamment, alors c'est pas en France, c'est au Danemark, mais qu'il y avait certains médecins qui disaient que il fallait parler de la pornographie à l'école, mais il fallait aussi montrer, mais qu'il fallait pas non plus hésiter à montrer certaines images, et évidemment pas toutes les images, mais comme on le fait, par exemple, quand on a des cours où on décrypte la publicité. Oui. Ah bah alors attendez, moi j'en sais rien, moi je suis pas sexologue, je vous pose la question. En tout cas, vous dites absolument pas, il faut pas le faire.
Non, mais là c'est pas à moi, adulte, à montrer ça à un enfant. Une chose est qu'il le prenne lui-même, qu'il le trouve et qu'il le regarde. Autre chose, c'est moi, adulte, je vais vous montrer des images explicitement sexuelles. Là, je trouve que il y a quelque chose qui n'est pas juste dans le rapport à l'enfant.
Mais comment vous faites quand vous en parlez alors? Parce que quand vous en parlez, vous êtes bien...
Écoutez, je vais vous dire un truc déjà. On n'a pas besoin d'images. Tout le monde voit très bien de quoi on parle. Premièrement. Ensuite, quand on en parle, on réfléchit ensemble sur, finalement, quel est l'impact. Moi, j'adore les provoquer en leur demandant, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on regarde ça? Quel est l'intérêt? Est-ce que vous pensez, je leur demande souvent, je pose souvent la question, est-ce que vous pensez qu'il faut que je montre du porno à tous les collégiens? Alors j'adore ça. En général, ils disent.
Vous la posez la question,
oui,
vous voyez bien.
La question, mais je fais exprès. Moi aussi, je pose la question. Évidemment, ils disent. Mais non. Et je dis pourquoi pas. Parce qu'en fait, c'est pas le réel. Et puis on discute là-dessus. Et je les fais eux-mêmes verbaliser la problématique. Et c'est pas moi directement qui l'apporte, mais au travers de mes questions, ils la comprennent.
Comment est-ce qu'on peut parler à des mineurs de la pornographie, Ovidie, sans en montrer trop, sans peut-être aussi avoir d'effets contre-productifs, parce que quand un adulte parle de ces choses, un mineur, c'est pas forcément quelque chose qui est très bien accepté. Comment est-ce qu'on fait?
Ça m'est jamais arrivé. Je vais répondre très clairement, ça m'est jamais arrivé. J'en ai parlé avec énormément de jeunes filles, de jeunes adultes. C'est vrai qu'à quoi rêvent les jeunes filles, c'était plutôt les 18-25. J'ai jamais été vraiment confrontée à ce problème-là. En général, quand je parle à des jeunes filles, donc là vraiment des mineures, des adolescentes, en général, je parle plus de problématiques, problématiques féministes en général, problématiques d'égalité. Je pense qu'à partir du moment où on a vraiment bien tout ce bagage d'égalité, de parité, etc., qu'on a vraiment bien tout ça dans la tête, on est beaucoup plus paré, entre guillemets, pour affronter, affronter c'est le bon terme, pour affronter ces images pornographiques. Je veux dire, à partir du moment où on a été élevé dans un contexte où on a bien intégré tous ces rapports d'égalité entre hommes et femmes, je vois pas pourquoi derrière, une fois qu'on regarde des images pornographiques, tout à coup, pouf, ça explose dans notre tête et on sait plus ce que c'est que le consentement et on sait plus comment on doit se comporter sexuellement. À mon avis, c'est là qu'il faut travailler en amont, quoi.
Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que la question, c'est peut-être comment on parle de sexualité aux mineurs, comment eux en parlent. Déjà, ça serait, on sait qu'ils en parlent entre eux, qu'ils en parlent plutôt entre pères, entre eux, plutôt qu'autre chose.
Entre pères, PAIRS, hein.
Oui. Et donc, je pense que c'est important d'expliciter, en fait, et de ce point de vue-là, de concevoir la sexualité comme un ensemble de savoirs, de savoir-faire, de techniques. Ce qui me frappe, c'est que quand on parle de la sexualité, de comment on parle de la sexualité des enfants, il me semble qu'on a souvent une image un petit peu naïve de la sexualité, comme si, en fait, par exemple, ils vont informer des fantasmes, ou en fait, ils vont entrer trop tôt, etc., etc. Mais en fait, il y a une socialisation sexuelle, on est formé comme des sujets sexuels, la majeure partie des individus, en fait, optent pour une sexualité hétérosexuelle et conjugale, ce qui est probablement un effet de l'organisation sociale, et de fait, on n'interroge pas la dimension idéologique, on se dit pas, est-ce que finalement, ces gens sont influencés par quoi que ce soit, alors que manifestement, c'est le cas. Donc, je pense qu'il y a une question qu'il faut penser, qu'il y a une production sociale du sexuel qui vaut pour les enfants, mais qui vaut pour tout le monde et qu'il faut interroger en tant que tel.
Thérèse Argaud.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, on peut aller parler de la pornographie. Et moi, je pense qu'il faut même aller en parler en milieu scolaire pour avoir une réflexion là-dessus sur l'image, sur effectivement ce qui est véhiculé comme image de la sexualité, vous avez bien parlé du rapport sexiste, parce que ça, c'est très interpellant quand même dans notre société où on éduque quand même à l'égalité entre hommes et femmes, et de voir ce qui se rejoue dans l'intime, dans cette sphère-là, dans le secret, ou au travers de l'écran, enfin, ou de la pornographie. Ça, c'est très interpellant sur notre société égalitaire et notre société qui cherche justement à changer les choses à ce niveau-là.
En revanche, je pense vraiment pas qu'il faille les... Je dis pas que c'est ce que vous faites, hein, mais je dis en revanche, je pense qu'il faut vraiment veiller à ne pas les culpabiliser.
Non,
parce que sinon, c'est comme les campagnes anti-tabac, quoi. Ils vont fumer quand même. Donc,
Et c'est pour ça, et c'est intéressant, la culpabilité, parce que on retrouve un sentiment de culpabilité très fort chez les consommateurs aussi de la pornographie et chez les jeunes. Ils se sentent coupables, beaucoup, parce qu'ils éprouvent une excitation sexuelle sur ce qu'ils voient quand ils regardent. Ils se disent, oulala, mais c'est quand même pas très bien, parce que c'est pas justement des représentations d'égalité, de respect, comme on m'a appris. Et donc, souvent, il y a un choc là-dessus d'éprouver un plaisir sur quelque chose qui est, en fait, de l'ordre du fantasme, qui est pas très bien. Donc là, il faut réexpliquer là-dessus pour déculpabiliser, parce qu'à mon avis, cette culpabilité n'est pas juste.
Le point de départ, en pratique, c'est pas l'égalité, c'est l'inégalité et les asymétries. Hein. Je pense qu'il faut quand même le rappeler, c'est-à-dire que la pornographie n'informe pas un monde égalitaire entre hommes et femmes, mais rejoue un monde qui est des rapports de genre qui sont déjà inégalitaires. D'autre part, en fait, sur les études sur la question de la consommation de pornographie, qui est une culpabilité possible et qui est des effets négatifs ou des usages négatifs, en fait, comme pour la drogue, en fait, de la pornographie, c'est possible. C'est-à-dire qu'en fait, il y a rien qui a un sens positif. Univoque, mais peut-être que tout dépend d'où vous tirez vos matériaux ou vos impressions, c'est-à-dire en tant que sexologue, si vous captez des gens qui estiment déjà avoir un problème, vous êtes face à un certain public, en fait.
Exactement, c'est sûr.
Et donc peut-être qu'on peut envisager d'autres usages sociaux de la pornographie qui sont moins problématiques et qui sont moins perçus comme problématiques.
Et comme chaque semaine, on retrouve l'Obs et les pages débat avec vous, François Armanet, responsable de ces pages débat de l'Obs. Bonjour.
Oui, bonjour.
Pour nous parler aujourd'hui du dernier ouvrage que publie Michel Onfray, Penser l'islam, et vous en faites un débat.
Oui, donc le philosophe publie Penser l'islam, et nous, on a organisé un débat qui est très très rude. Voilà, si vous avez l'occasion de le lire... Rarement un débat est aussi virulent, en tout cas dans une publication écrite, et entre donc le philosophe Michel Onfray et le psychanalyste Fethi Ben Slama sur l'islam. Donc le mieux, c'est peut-être un peu de vous citer l'attaque immédiate de Fethi Ben Slama. Il lui dit, Michel Onfray, vous avez écrit, pas Penser l'islam, mais un livre d'impensé de l'islam. La France, je le cite, qui a produit dans la deuxième moitié du XXe siècle le plus grand nombre de penseurs d'envergure, voient apparaître aujourd'hui leur antinomie, ceux qu'on pourrait appeler les impenseurs. Ils ont leur public, ils sont très médiatisés tout en vilipendant les médias, ils dénoncent le système tout en profitant. L'une de leurs caractéristiques est d'insuffler la détestation de leur pays et le désespoir au nom de l'amour qu'ils ont pour eux-mêmes à travers lui. Donc on voit que l'attaque est d'une virulence incroyable contre Michel Onfray, qui réplique très vertement à Fethi Ben Slama. Donc, et là je le cite, « Comme le croyant, le freudien, l'universitaire sont comiques en vous. Je comprends que vous préfériez l'impensé, cela vous permet d'une part de ne jamais penser, mais de toujours pathologiser. » En tout cas, vous vous installez dans la posture du thérapeute qui soigne le malade et vous n'allez guère intellectuellement plus haut que Manuel Valls pour qui comprendre cette excusée est légitimée. Et Onfray continue, chacun verra dans quel mépris vous tenez votre interlocuteur, devoir répondre à chacune de vos insultes, interdit que le débat véritable ait lieu. C'est la méthode des journalistes de plateau de télévision, je la connais. Donc là vous voyez quand même le niveau rarement atteint, en tout cas dans nos pages, d'une polémique aussi importante. Et pour revenir au livre de Michel Onfray, il y réfléchit sur l'islam, sur la laïcité, sur l'islam de France, et il appelle à une laïcité de pragmatisme, un islam républicain qui serait financé par l'argent public, où les imams seraient formés salariés et les lieux de culte subventionnés. Donc il y a aussi des propositions et une véritable analyse, en tout cas de Michel Onfray. Mais nous, on l'a fait de manière très inédite avec ce débat.
Voilà, et c'est donc à lire cette semaine dans les pages débat de l'Obs. Merci beaucoup à nos trois invités d'avoir participé à cette émission consacrée à la pornographie. Merci Ovidie, merci Mathieu Trackman. La fabrique pornographique chez Casterman dans la collection Sociorama, une enquête de Mathieu Trackman, des dessins de Lisa Mandel. Et puis merci à Thérèse Argot, une jeunesse sexuellement libérée ou presque chez Albin Michel. Et je précise que demain, vous serez en signature ici à Libre Paris. À quelle heure?
À 13h30 jusqu'à 15h.
Merci beaucoup à tous les trois. Un grand merci également à toute l'équipe du Grain, Fanny...
14h.
14h.
Ah bah, je savais pas, Olivier. Voilà,
pour faire ma promo.
Ah bah, voilà, vous avez bien fait. Voilà, bah, Thérèse Argo m'avait dit avant, est-ce que je pourrais le dire? Mais voilà, on n'avait pas dit. Merci à toute l'équipe du Grand, en tout cas. Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Cyril Baer, Hugo Florent, émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son ce soir Clément Daté et Stéphane Beaufils. Lundi, vous retrouverez Mélanie Chalandon à 18h20 pour la question suivante, Brésil, la fin d'une ère. Tout de suite, c'est ping-pong. Bonsoir Mathilde et bonsoir Martin. Et je vous touche en même temps que je vous dis bonsoir.